RMC, les grandes gueules.
On l'a déjà salué, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté. S'il y a bien la régionale de l'étape, c'est bien madame Agresti-Roubache.
Ben oui.
La Marseillaise de l'État.
On est fiers là. Tous les Marseillais sont fiers d'accueillir la flamme. Vous êtes fiers d'accueillir la flamme?
Moi, à titre personnel, en tant que Marseillaise, très fière. En tant que ministre, encore plus fière. Et les Marseillais, évidemment. Vous savez, les Marseillais ont toujours été au rendez-vous de l'histoire. On a beaucoup de défauts, mais on est toujours au rendez-vous de l'histoire. On l'a été à la Coupe du Monde 98, pour ce qui est plus récent pour moi, de ma génération, et sur Marseille, capitale de la culture. On l'a été, et là, avec la flamme qui arrive à Marseille, accueillie par le président de la République, le plus marseillais de la 5e, donc on peut que être fiers.
Il adore autant Marseille. Vous avez discuté avec Emmanuel Macron de sa passion pour Marseille?
Oui, je l'avais expliqué une fois. Je pense que le caractère, le tempérament, le potentiel de la ville. La jeunesse, on a quand même plus de 50% de la population qui a moins de 18 ans. Enfin, on a des atouts, mais le tempérament de la ville.
Oui, mais vous avez des atouts, mais dernièrement dans l'actualité, Sabrina Agresti-Roubache, on a parlé d'une ville qui est gangrénée par la drogue, on parlait même d'une narcoville, on parle de ces règlements de compte avec des jeunes de plus en plus jeunes qui tombent sous les balles. Donc, c'est ça aussi Marseille. Dernièrement, Marseille, c'était surtout ça.
Alors, Olivier, vous parlez à une ministre qui est née dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Donc, ça, première chose. Donc, j'ai grandi dans le quartier de la French Connection, donc pas loin de la Belle de Mai, dans le 3e. Ce qu'on a fait récemment, j'ai écouté, moi, beaucoup de commentaires qui venaient depuis Paris, et je suis toujours frappée par tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Non, quand tu vas exploser un point de deal, ça sert pas à rien. Tu changes la vie des gens.
Opérations Place
Regardez,
Net.
Les fameuses Place Net XXL, exactement, du ministre de l'Intérieur, de Gérald Darmanin. Regardez à la paternelle, il y a eu un très bon article la dernière fois du Figaro qui expliquait qu'ils sont allés voir les gens. Il faut parler avec les habitants pour comprendre. Et quand les points de deal sont supprimés, je rappelle trois chiffres à Marseille, c'est très important, plus de 70 points de deal supprimés en 2 ans, c'est pas rien. Sur ces opérations, hier, j'étais en Allemagne, à Hambourg, à une grande réunion sur justement la lutte contre la criminalité, et j'annonçais des chiffres. 3800 personnes arrêtées, 20 millions d'euros de cash saisis, 4 tonnes de drogue saisies. Enfin, ça veut dire quelque chose. Donc, moi, je refuse qu'on nous traite ou qu'on nous qualifie de narcoville. Mais rappelez-vous, j'avais été la première à dire, pas de consommateurs, pas de dealers. Qui vient acheter, sa drogue dans nos quartiers populaires, vous pensez? Ceux qui ont les moyens de se payer de la drogue. Oui. Moi, jusque-là, j'ai pas
tout le monde, parce qu'on a l'impression que le cannabis est partout
millions,
maintenant.
5 millions de consommateurs.
Il n'y a pas que des cadres qui
fument.
Non, bien sûr que non.
Mais évidemment.
Non, mais tout le monde, il y a des jeunes, des moins jeunes.
Ça concerne tout le monde. 5 millions de consommateurs, et j'avais pas fini le reste de mon explication. J'avais dit aussi, mais ça avait moins intéressé, parce que c'était moins cash. Je disais, mais consommer de la drogue, en fait, c'est une addiction. Donc, maintenant que j'ai la charge, justement, de la prévention de la délinquance, j'ai mis en numéro 1 la lutte contre les conduites addictives, la lutte contre les conduites à risque, et j'ai mis la santé mentale. Parce que je pense que de continuer à dire juste la légalisation serait le fameux, la potion magique pour en venir à bout, aller voir ce qui se passe dans les pays qui ont légalisé. Je vous dis, je reviens de cette réunion où je représentais le ministre de l'Intérieur. Donc non, ma ville, c'est pas ça. Notre ville, c'est pas que ça.
Vous ne voyez pas du tout à la légalisation du cannabis?
Pas tant que... Alors, je vais vous dire une chose. Tant que vous aurez des réseaux criminels de trafiquants surarmés financièrement, vous n'y arriverez pas, on n'y arrivera pas. Il faut bien démarrer quelque part. Moi, ce en quoi je crois, c'est que tant qu'on continuera à leur mener la vie dure, hier, je le disais, il faut être intraitable. Intraitable parce que, vous savez, on essaye toujours de fantasmer. Pareil, vous savez, la voyoucratie à Marseille, elle a été fantasmée. Mais ce sont des gens quand même qui n'ont ni foi ni loi, qui tueraient père et mère, et rappeler ce qu'ils sont et tout le mal qu'ils provoquent. Une famille qui est touchée par la drogue, vous dites règlement de compte, moi je dis assassinat. Je dis plus règlement de compte, parce qu'on a des jeunes et des enfants qui meurent, de plus en plus jeunes. En revanche, est-ce que tout est fini? Non, parce que je travaille par exemple avec le collectif d'une amie d'enfance, à moi, Aïcha, qui a perdu son fils. Ça a été le premier règlement de compte filmé qui a tourné sur les réseaux sociaux, il avait 21 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait, Aïcha? Vous croyez qu'elle a, elle a baissé les bras? Elle a monté un collectif et on travaille ensemble justement sur la prévention et l'accompagnement des victimes.
Je peux vous poser une question. Je vous poser une question personnelle.
Oui.
Très personnelle. Vous après, vous voyez si vous y répondez ou pas. Quand on a grandi en général dans ces quartiers, on a forcément autour de soi quelqu'un qui a été touché ou qui est tombé dans la drogue. Est-ce que ça vous est arrivé, vous?
Évidemment que oui. J'ai perdu. Enfin, je vous montre ma photo de classe. La moitié de mes amis d'enfance, ou ils sont morts, ou ils sont en prison. Enfin, c'est ça, c'est la réalité. Quand tu es né à Félix Fiat, enfin, je rappelle juste que c'est Félix Fiat, une cité dans laquelle on a été très heureux. J'ai été très heureux, je le disais, dans mon livre, j'ai eu une enfance magnifique, mais parce que j'avais des parents, j'ai reçu une éducation, j'ai eu la chance. Mais ouais, c'est ça la réalité.
Ça, c'est votre grand truc,
Qu'est-ce qui a changé? Comment vous expliquez justement autour de vous, puisque vous avez dit, voilà, quand je regarde ma photo de classe, il y en a plein qui sont en prison ou morts.
Ouais.
Comment ils sont tombés là-dedans? Pourquoi ils sont tombés là-dedans? Et pourquoi? Alors, vous parlez de vos parents, donc ça veut dire que eux, les parents n'étaient pas là, c'était déstructuré.
Pas que, en fait, si on réduit, on minimise le sujet à ce sujet, enfin, on n'y arrivera pas. C'est pas ça. La réalité, c'est que ils ont fait le choix du mauvais côté de la barrière. Et je l'ai toujours dit, il y a un bon côté, un mauvais côté. Ils ont choisi le mauvais côté de la barrière.
Donc c'est des choix personnels.
À
un moment donné, il y a une responsabilité individuelle.
Exactement, je parle de responsabilité. Vous savez, moi je côtoie dans mes amis d'enfance, il y avait des parents formidables. Et dans la même famille, vous avez des minots qui tournent bien et des minots qui tournent mal. Allez l'expliquer. Ce qui est sûr, c'est que la cellule familiale, en tout cas que j'ai eu la chance d'avoir, on va dire l'éducation et l'instruction, l'école. Moi j'ai rencontré des profs formidables. Donc, et je suis allée dans les écoles qui maintenant font partie justement du Marseille en grand en termes de rénovation et de restructuration totale. Mais la réalité, c'est que je crois quand même que de toujours dire que tout est foutu, c'est terrible pour moi. N'est pas foutu.
Madame la ministre, vous avez répondu, je vous remercie. Attendez, pause, parce qu'on a quelqu'un, on a Julien Richard qui est sur le BLM.
Ah.
En direct pour RMC, journaliste RMC, Julien Richard du service des sports sur le BLM.
Pas tout seul, hein.
Bien évidemment. comment ça se passe sur ce magnifique voilier, Julien, alors?
Alors, juste d'arriver, je viens juste de monter à bord. Ce sont des images assez impressionnantes. Alors déjà, il y a un grand ciel bleu, ça vous aura pas échappé. Et tout autour du bateau, il y a une nuée de bateaux suiveurs. C'est 1024 bateaux qui vont accompagner le BLM jusque dans le Vieux-Port sur cette parade, hein, rade nord, rade sud, pour arriver à 19h dans le Vieux-Port. Donc c'est très très impressionnant. Il y a un bateau de la Marine Nationale qui l'escorte, hein, qui ouvre la voie. Tout à l'heure à 11h, au moment du lancement de cette parade nautique, il y avait également un bateau pompe des marins-pompiers qui a lancé ses jets d'eau. On a entendu également des cris, des sirènes, des cornes de brume, ça on pouvait pas y échapper. Allez l'OM qui ont été lancés depuis les bateaux suiveurs. Ça n'a pas déplu à deux des 16. Il y a 16 jeunes qui ont embarqué à bord depuis Athènes, qui ont fait les 12 jours de traversée, qui ont été sélectionnés par la Caisse d'épargne. Et deux d'entre eux sont marseillais. Le maire de la ville leur a d'ailleurs confié un drapeau avant le départ. Et je peux vous dire qu'ils ont repris en cœur, évidemment, les Allez l'OM. Je vois le commandant là qui est pas très loin de moi, qui est en train de s'activer, de surveiller, parce que c'est évidemment assez périlleux. Le BLM sous bonne escorte, je vous parlais du bateau de la Marine Nationale, mais il y a également une nuée de Zodiac, des forces d'intervention qui sont tout autour et qui empêchent, qui forment une sorte de cordon de sécurité autour de ce BLM. Et tout l'équipage, tous les jeunes, tous les marins professionnels également à bord, bien en hâte maintenant de se diriger vers le Vieux-Port que l'on aperçoit au loin. On voit la bonne mer au loin et en hâte de
arriver. Prévu à quelle heure, Julien?
Alors l'arrivée est prévue aux alentours de 19h, hein, l'entrée dans le Vieux-Port avec un tifo des South Winners. C'est le groupe principal des supporters de l'Olympique de Marseille qui a confectionné un immense tifo. Il y aura des fumigènes, il y a une grosse fête de prévue à ce moment-là aux alentours de 19h. La patrouille de France aussi qui va survoler tout ça avec les traditionnelles couleurs bleu, blanc, rouge, mais pas que. Il y aura une petite surprise avec les anneaux olympiques qui seront formés dans le ciel au-dessus du Vieux-Port jusqu'à ce que Florent Manodou vers 19h40 ne débarque avec la flamme olympique.
On a hâte de vivre ça. Merci Julien Richard, qui est l'un des rares journalistes à pouvoir être en direct du BLM, puisque je vous le rappelle que RMC est la radio officielle de ces Jeux Olympiques Paris 2024. Joël, pardon, oui. Je te redonne la main pour ta question.
Non, Madame la Ministre, moi je suis comme vous, hein, j'ai grandi dans des quartiers dans le 93, donc en Ile-de-France, qui était un quartier très riche, notamment à Saint-Ouen, qui est une plaque tournante du trafic de drogue. Et je suis comme vous, la moitié de mes copains sur la photo de classe sont tous passés par la case prison. Maintenant, moi, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle, c'est qu'on démantèle, on fait place nette XXL dans plein de quartiers, mais c'est quoi l'alternative? Quand vous avez enlevé les deals, les points de deal, qui d'ailleurs, je pense, vont revenir, mais bon, quand
non,
vous les avez
enlevés. C'est ce que vous,
non, mais attendez, c'est quoi l'alternative quand on démantèle pas le chômage dans ces quartiers? Quand on démantèle pas aussi, j'ai envie de dire, l'absence de rêve, parce qu'il y a une sorte de désespoir. Qu'est-ce qui fait rêver aujourd'hui dans la politique du président de la République, dans la perspective qu'il nous donne? Qu'est-ce qui fait rêver? Qu'est-ce qui me fait croire que moi, mes jeunes frères, etc., peut-être, ou des copains qui sont encore dans les quartiers, vont avoir une perspective dans ce pays? Je suis désolée, aujourd'hui, il y a vraiment une désespérance, il n'y a pas même un manque d'espérance dans la politique qui nous est proposée aujourd'hui. Alors moi, je veux bien qu'on démantèle plein de places XXL, par contre, il faut une alternative.
Sabrina Gresti-Roubache.
J'oubliais juste, si vous me permettez, on est en France, hein, on vit en France dans la 6e puissance mondiale, et honnêtement, il ne faut jamais avoir voyagé de sa vie pour ne pas se rendre compte dans quel pays on vit. Vraiment, tout n'est pas parfait. Vous venez d'un quartier, je viens d'un quartier. On a fait quoi toutes les deux?
Oui.
On a travaillé.
D'accord.
On s'est battu. Jusqu'à maintenant, moi, on continue à me traiter. Enfin, vous voyez, on te ramène à ton origine sociale constamment. La réalité, c'est que, oui, faire un bon choix, c'est-à-dire le bon choix de la barrière, c'est plus dur que la moyenne. Oui. J'ai travaillé 20 fois, 30 fois, 40 000 fois plus que les autres. D'accord. Et on continue à me faire des procès en incompétence. T'es pas assez ceci, t'as pas trop fait cela. Mais en attendant, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut bien démarrer quelque part. Moi, je suis de celle qui dit, puisque je connais les quartiers, je viens de là. Je dis, oui, alors exploser les points de deal, c'est une bonne solution. Parce que quand tu rends le quartier aux gens, quand tu rends la rue aux gens, c'est déjà la première étape. La deuxième étape, on parle des rêves. À chacun son Himalaya, je l'ai dit 10 000 fois. La réalité aussi, c'est que il faut aussi prendre la main tendue quand on te l'attend. On est d'accord?
Oui.
On ne peut pas tout le temps expliquer que l'État est responsable de tout et que les libertés individuelles, justement, ne s'exerceraient pas et que pour le. Moi, j'entends tout. Encore une fois, j'ai connu, par contre, si vous voulez parler d'une chose, j'ai connu des centres sociaux, c'est vrai, qui proposaient plein d'activités. Ouais. J'ai voyagé, j'ai fait, mais j'ai beaucoup travaillé. Il y a une chose que vous avez oubliée dans votre...
Donc, il faut savoir se prendre en main, c'est ce que vous dites aussi.
Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier le pays dans lequel on vit.
C'est vrai, mais on
vit dans
pas.
Un pays de liberté, Joël.
Je suis complètement d'accord, et je suis comme vous, on a beaucoup travaillé, on a eu la chance d'avoir des parents encadrants. Mais on ne veut pas une main tendue, on veut un système qui fonctionne. Et le système, il ne fonctionne pas.
Moi, j'y travaille.
L'ascenseur, il est cassé. Vous savez que même l'escalier, aujourd'hui, il commence, les marches commencent à se briser une à une.
Vous avez raison.
Donc il nous faut un système qui fonctionne.
Pourquoi je parle tout le temps de l'école? Parce que je pense que l'école, c'est important.
Oui.
C'est même primordial. Tu sais lire, écrire, compter, tu dois plus rien à personne, t'es autonome. Et vous savez, dans mon portefeuille de la citoyenneté, si vous le permettez, Alain, 30 secondes, j'ai l'accueil des réfugiés, les demandeurs d'asile, les naturalisations, la lutte contre la radicalisation, la prévention de la délinquance. Enfin, j'ai tous ces sujets, l'apprentissage du français. Qu'est-ce que je dis quand je mets sur le papier une politique publique d'accueil des réfugiés? Je veux qu'ils soient autonomes, je veux qu'ils sachent parler français. Pourquoi? Pour qu'ils se prennent en main, parce que personne ne vient dans notre pays pour profiter, on vient dans notre pays pour travailler, pour s'insérer et pour vivre dans un pays libre. Je crois qu'il manquait juste ça dans votre...
Didier Giraud.
Vous parlez beaucoup de la fracture sociale des quartiers. Moi, je viens d'un endroit où la fracture sociale, c'est pas les quartiers, c'est la désertification rurale, et je trouve que le niveau de désespérance dans mes campagnes, elle est pas loin des jeunes de vos quartiers. Et alors,
c'est la même.
Je pense que il y a peut-être encore une différence autour de l'éducation et de la valeur de leur travail, mais je connais des paysans qui se posent la question de planter du cannabis, quoi. Parce qu'ils ont été sollicités par des mecs qui ont la casquette en travers de la ville d'à côté et qui du coup se disent aujourd'hui est-ce que je gagnerais pas plus? Et je pense que on est dans une société où il y a un modèle social qui a à reconstruire autour de la valeur travail, quoi. Quand le rêve des gamins qui sont en CM2, et moi j'ai fait des interventions dans ces endroits-là, je peux vous le dire, c'est soit d'être footballeur professionnel, soit d'être influenceur. Écoutez, vous prenez une classe de CM2, il y en a 70% qui vous disent ça.
Oui, mais les
30%. Des pompiers, des infirmiers, des agriculteurs, il y en a plus.
Je crie plus fort. Moi, le truc, c'est que il n'y a pas que ça. Franchement, réduire les jeunes des quartiers ou les jeunes en ruralité, rappelez-vous, je l'avais dit, je ne serai pas la ministre uniquement des quartiers prioritaires.
Je l'entends, ça.
J'ai dit, nos jeunes en ruralité souffrent autant que les gamins dans les quartiers. J'étais la première à le dire. Et pourquoi ? Parce que ma mère, elle est née à Salon-de-Provence, elle vient de la ruralité. Elle est née au milieu des champs d'artichauts. Mais par contre, qu'on nous réduise, parce que moi, je me considère toujours comme une enfant des quartiers. Je suis restée ce que j'étais enfant. Je ne veux pas, je refuse. Et honnêtement, c'est probablement ce qui me révolte le plus. Qu'on nous réduise à... Alors, tu veux faire quoi ? Alors, si t'es une fille, tu veux faire quoi ? Esthéticienne ? Alors que c'est génial, esthéticienne. Mais non, moi, j'avais d'autres rêves. J'avais envie de faire des études. J'avais envie de travailler dans le cinéma. Mais qu'est-ce que ça m'a demandé ? La même chose, vous parlez de la valeur travail. Eh bien ouais, la valeur travail. Et je rappelle juste qu'on a créé 2 millions d'emplois et que le président, rappelez-vous, quand il a été élu en 2017, il avait dit sa priorité, c'était de lutter contre le chômage de masse.
Alors, Mehdi,
rapidement. Mehdi Guézard, la question de Mehdi dans un instant. Dans un instant, Mehdi Guézard, Didier Giraud, Joël Dagosséry, la secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté qui reste avec nous, Sabrina Agresti-Roubache, les GG en direct de la terrasse du Mussem ici à Marseille à l'occasion de l'arrivée de la flamme. Oui, on est en direct de Marseille, ici de la terrasse du Mussem, pour accueillir la flamme olympique, pour vivre l'ambiance marseillaise. C'est un grand moment pour la cité phocéenne, grand moment pour tous les Marseillais. On en parle avec la Marseillaise du gouvernement, c'est Madame Sabrina Agresti-Roubache qui est avec nous, secrétaire d'État en charge de la ville et de la citoyenneté. Elle répond de manière plutôt franche aux questions de Didier Giraud, Joël Dagosséry et de Mehdi Guézard. Mehdi, vas-y.
Madame la maire de Marseille, pas Madame la ministre, Madame la maire de Marseille, parce que nous sommes tous autour de la table que votre plan et votre feuille de route est déjà préparée.
Vous parlez du Marseille en grand, je suppose.
Je parle de vous en tant que future maire de Marseille. Emmanuel Macron a dépensé énormément d'argent sur la ville de Marseille, à chaque fois, à dépenser. Parce qu'investi, on voit, investi a un retour sur investissement.
Eh ben, le retour sur investissement.
Laissez-moi juste finir ma question, madame la maire, ma ministre. Et à dépenser ou investir selon les rôles de chacun, pas mal d'argent sur la ville de Marseille, des milliards et des milliards à chaque visite qui vient. C'est milliards. Papa Noël qui arrive à Marseille et qui dépense et qui donne des budgets. Aucun souci, c'est normal, c'est la deuxième plus grande ville de France, c'est une ville exceptionnelle. Il faut le reconnaître, je ne suis pas pour son club, mais j'aime la ville. Il y a un problème.
C'est quoi ?
C'est que, malgré ça, l'immigration pose un problème, que le Rassemblement National est à 33% des intentions de vote, et qu'il ne cesse de croître. Donc, on a un énorme problème de dépenses, d'argent qui sont investis, selon vous, madame la maire ministre.
C'est pas selon moi, c'est...
Selon la maire ministre, voilà. Mais en contrepartie...
C'est quoi le retour ?
L'extrême droite continue à progresser. Alors, on a un problème d'assimilation, d'insertion de l'immigration. Et on sait très bien que Marseille est assujetti justement à ce problème plus que d'autres villes par rapport à sa géographie. On le conçoit. Donc, madame la ministre...
Je préfère que vous adressiez à la ministre.
Alors, réponse.
Future maire de Marseille.
Donc c'est l'échec, ça, votre
Non,
c'est l'échec.
Pas du tout. Déjà, quand je vous parle d'investissement...
C'est pas un échec pour vous.
Non, mais si tout est échec, honnêtement...
Non, mais je vous demande.
On rentre tous, on s'en va. Heureusement que non. C'est la première fois qu'un président de la République se penche sur le berceau d'une ville. C'est un plan, Marseille en grand, et j'ai honnêtement l'honneur, moi je parle même pas de la responsabilité, l'honneur de le porter. Un plan de sauvetage de la deuxième plus grande ville de France sur l'école. Vous pensez qu'on dépense dans l'école ? Moi je dis, on investit dans l'école. Un milliard. Un milliard sur les transports. Quand on désenclave...
Excusez-moi, madame la
ministre. Oui, mais arrêtez de regarder des reportages.
J'ai regardé énormément de reportages, excusez-moi, madame la ministre, avec tout mon respect, d'écoles dans certains quartiers de Marseille.
Mais elles méritent d'être rénovées, on est d'accord.
S'il y a eu de l'argent dépensé pour les écoles dans l'État, il faut se poser des questions sur les entrepreneurs qui ont fait des travaux.
Alors, Mehdi, peut-être...
Je vous le dis.
Attends, réponse de la ministre. Mehdi, attends.
Mehdi, vous faites partie...
Des écoles qui n'ont pas de chauffage, qui ont des fuites d'eau...
Merci, c'est pour ça qu'on a fait le plan Marseille en France.
Sabrina Agresti-Roubache répond.
Mehdi, alors, si vous avez une baguette magique et que vous savez me faire 188 écoles en un an et demi, donnez-moi votre baguette et je l'ai fait.
Excusez-moi, madame la ministre. Le premier plan d'Emmanuel Macron, c'est 2020.
Non, 2021.
2020.
2 septembre 2021. Non, vous êtes très mauvais en date, c'est 2 septembre 2021.
Je ne suis pas ministre.
Ça se voit.
Alors, c'est pas mon rôle. Allez-y, continue.
Donc, le 2 septembre 2021, première chose. Plan Marseille en grand, 188 écoles rénovées. L'État qui met 1 milliard d'euros sur le bâti scolaire. alors que le bâti scolaire, je vous le rappelle, c'est la commune, c'est le maire. Donc une ville exceptionnellement aidée sur quelque chose que vous pointez, sur lequel vous avez raison, mais ne vous inquiétez pas, en enfant de Marseille, je l'avais vu avant vous.
Donc septembre 2021, on est en mai 2024,
10 écoles livrées à la fin de l'année, c'est un plan qui ira jusqu'en 2032, et si vous ne connaissez pas ce truc qui s'appelle juste avoir un peu de vision, et les délais incompressibles de construction, il y a un truc que je comprends pas.
Moi je parle aussi de rénovation, madame.
Oui, et là, combien ça prend de temps, la rénovation? On va détruire on va détruire la tour du B12, par exemple, dans le cadre de la rénovation urbaine, 650 millions d'euros investis sur Marseille sur 10 projets. Vous arrivez à détruire une barre de 20 étages en 3 jours?
De quoi on parle? Après, il a relié ça à l'immigration aussi. Le rassemblement, le Rassemblement national n'a jamais été aussi haut.
Très vrai. Alors,
Emmanuel
Macron aux législatives
avait fait de la lutte contre le Rassemblement national. Un axe politique.
Il avait même dit qu'on n'aurait plus de raison de voter pour le Rassemblement national lorsqu'il a été réélu par rapport à ce qu'il faisait. Voilà. Aujourd'hui, Bardella est à 32%.
Alors, Bardella, 32%. Moi, si j'avais dû écouter tous ceux qui m'expliquaient que ma circonscription était perdue, je vous rappelle que j'ai battu le RN d'un peu moins de 700 voix. Alors et on m'avait dit, non mais je me rappelle très bien, une fille qui s'appelle Sabrina Roubache, elle peut pas gagner dans un quartier bourgeois. Mais je vous dis ce que disent les gens, mais puisqu'on parle. Et la réalité, c'est que si j'avais dû écouter tout le monde, j'y serais pas allée. J'ai battu le RN, et moi je sais, en tout cas, puisque je les ai déjà battus une fois, on ne les bat pas en pleurant et en pleurnichant sur son sort. On se bat, on les bat en allant chercher les voix de partout où elles sont. Et moi, je crois à la politique du quotidien. Quand je suis arrivée au ministère de la Ville, j'ai fait une chose, j'ai pris une mesure toute simple. J'ai sorti une circulaire, les fameuses circulaires, et j'ai demandé au préfet de financer les petites associations. À 50%, je dis 50% de vos budgets sur les politiques de la ville, je veux que ça aille aux petites associations sur un financement de 3 ans. Pour ceux qui ont des associations, ils comprendront ce que je dis. Pourquoi ? Parce que je veux qu'on finance les petites associations en bas des immeubles et qu'on arrête de les enquiquiner avec de l'administratif, la suradministration qui nous a sauvés pendant le Covid. Parce que dans ce que vous dites, j'entends, vous avez oublié qu'on a eu la crise Covid. Vous oubliez quand même la guerre en Ukraine. Vous oubliez beaucoup de choses. Vous faites comme si on était un pays à part, nulle part, et qui n'est concerné.
Vous n'avez pas répondu à la question sur l'immigration.
Alors, sur l'immigration, et là, je vais vous répondre, en plus, comme vous dites, on parle depuis Marseille. Je crois, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, parce que je savais à peu près où vous allez en venir. Je crois que, investir massivement sur l'apprentissage du français, sur les demandeurs d'asile, sur ceux qu'on voudrait régulariser, sur les métiers en tension. Oui, il faut avoir un certain niveau de français maintenant pour avoir ses papiers. Pourquoi ? Pas pour me faire plaisir, pour être autonome.
C'est logique.
Et la réalité, quand je dis, nous on est des enfants, moi je suis une enfant d'immigrés. Moi, mon père, quand il est arrivé en 67, il est arrivé pour travailler. Les gens viennent en France pour travailler.
Pas tous.
Et ceux, merci Olivier, ceux qui viennent semer le désordre n'ont rien à faire chez nous, et je l'assume. Et c'est pas d'être d'extrême droite de le dire. Et quand j'entends,
par exemple, certaines députées LFI
qui viennent parler au nom des musulmans, j'ai fait un débat, moi, avant-hier, sur la laïcité, et ils se font les porte-drapeaux des musulmans.
D'accord.
Je
suis d'accord avec vous en disant que c'est un scandale.
Absolument.
Que les musulmans se disent ou se
ils n'ont pas besoin.
Les LFI s'autoproclament comme représentants des musulmans, ce qui n'est pas.
Et dire qu'on aime la France, et dire qu'on défend son pays, et dire qu'on croit en son pays.
Mais Sabrina Gressy-Roubache, que répondez-vous à tous ces Français dans tous les sondages, ça va dans le même sens, qui disent aujourd'hui il faut stopper l'immigration.
Je dis, il faut la contrôler. C'est pour ça que la loi immigration est passée au mois de décembre. Rappelez-vous les débats. Rappelez-vous même les fractures dans la majorité. La réalité, c'est que j'avais
écrit... Vous assumez cette
ligne de fermeté. Moi, je l'ai écrit dans mon livre qui est sorti en 2021, où je disais, les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. Vous pensiez que j'expliquais quoi? Je disais que de les traiter de fachos,
ça ne marche pas, les amis.
Il va falloir leur parler autrement et les écouter. Écouter ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'ils se retournent vers l'extrême droite? Parce que le RN, c'est l'extrême droite. Moi, je vous invite à regarder le débat que j'ai été auditionné à l'Assemblée. C'est fameux. Où on explique le voile égale islam politique et tout. Non, voile, il y en a juste. Et frères musulmans, non, il y en a qui mettent un voile, notamment dans ma famille. Enfin, c'est juste parce qu'ils sont croyants. Point. Et ce que je dis aussi, c'est que, à force d'avoir expliqué que on n'écoute pas ces gens-là, on dit non, il n'y a pas de problème d'immigration illégale, mais non, tout va bien. C'est pas vrai. Et regardez les générations d'immigrés, les premières, les deuxièmes, c'est probablement les plus sévères sur l'immigration illégale.
Et sur l'islamisme aussi.
Et sur l'islamisme. Merci de le dire parce que je l'avais écrit il y a longtemps, j'avais même produit des films à ce sujet. Donc la réalité, c'est que je ne considère pas, moi, que tous les combats soient perdus. Les seuls combats qu'on perde, et je l'ai toujours assumé, c'est ceux qu'on mène pas. Moi, j'ai décidé de m'engager en politique uniquement pour ça. J'ai des convictions, j'ai des croyances.
L'échec.
Mais ça veut dire que concrètement, vous êtes pour une immigration choisie.
Non, je suis pour une immigration contrôlée. Pour une immigration où les gens ont envie de devenir français.
Comment on fait la différence entre la choisie et la subie pour un pays ?
Sur l'apprentissage du français, quand on demande, par exemple, quand on dit on va pouvoir régulariser des gens qui travaillent de manière illégale, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, je vous écoute moi aussi. Vous savez qu'il y a plein de gens qui travaillent de manière illégale, oui, notamment dans les métiers en tension comme la restauration ou le bâtiment. Moi je dis, je préfère qu'ils soient régularisés et les mettre dans un parcours d'intégration.
Et c'est dans 3 ans. Enfin, quand on est européen convaincu, on fait quoi aussi ?
Olivier, on prend
on fait
le
quoi,
temps.
Nous, qui subissons l'immigration pour aider les frontières extérieures de l'Europe on à exister fait, parce que les frontières de l'Europe, elles n'existent plus aujourd'hui, quoi.
Vous avez
à part en face de la Hongrie, quoi.
Il y a un impact immigration qui va être.
Mais regardez, les Anglais qui sont sortis.
Bah oui, ils nous font garder leurs frontières.
Non, ils nous ont donné 500 millions d'euros. Non, ils ont donné 500 millions d'euros à la France sur l'opération Sander, justement, pour contrôler mieux les frontières. Quand maintenant, dans le pacte immigration, on va pouvoir, au niveau de la frontière, enregistrer les demandes d'asile et non plus les laisser rentrer et après faire la demande d'asile. Vous ne pensez pas que c'est une avancée, c'est une manière aussi de contrôler.
Et vous serez où ce et soir à l'arrivée du Belém
avec le président de la République, ouais, sur
bien placé alors pour...
mais disons que la Marseillaise, elle a toujours un petit avantage sur les autres, je le reconnais.
Et est-ce que vous êtes, c'est ma question au du contraire. Jour est-ce que vous êtes au courant de la star ou de la personnalité
Zizou
alors, qui info, va qui va
lui faire
c'est
ma mère Zizou. J'aimerais qu'on fasse une dédicace à ma mère.
Alors moi je voulais parler de Zina, voilà, parce qu'il faut dire les coulisses, c'est que il y a une fan absolue des Grandes Gueules qui est à Marseille, qui s'appelle Zina. Il se trouve que c'est la maman c'est la maman de la mini Zina.
Vous savez ce que ça veut dire Zina? Vous savez ce que ça veut dire Zina en arabe?
Non.
Belle.
Bah, voilà. Alors on l'embrasse et on dédicace cette émission. Elle vous a dit quoi, Zina? Elle vous a dit soyez sympa avec les gens.
Non, elle m'a dit sympa avec vous. J'ai dit non, je vais les massacrer. Bon, en fait, mais j'ai été très sympa.
Donc, est-ce que vous savez qui est la personnalité mystère ou pas?
Ah ben, alors, vous voulez que je vous dise, ça ne m'intéresse pas du tout. J'adore les surprises.
Non, mais vous le savez.
Pas du tout. Ah non, vraiment.
Donc, c'est un secret.
Personne ne le sait. Non, je ne l'ai même pas demandé.
Il n'y a que Midi Guézard.
Il n'y a que moi, en fait.
C'est vrai? Ah ben voilà.
Zizou.
C'est Zizou. Tu mets quoi sur la table?
1000 euros.
1000 euros sur Zizou.
Attention, on est à Marseille, on n'a qu'une parole.
Vous inquiétez pas.
Merci madame la ministre. Sabrina Agresti-Roubache.
Je crois qu'il va pas perdre.
Merci d'être passé voir la parole les GG.